Très bon réveil. Si vous nous rejoignez, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Après Donald Trump, porte-parole d'une Amérique repliée, Emmanuel Macron se fait au nom de la France le porte-voix des oubliés. Devant l'Assemblée générale de l'ONU hier, le président français a répondu point par point à son homologue américain, Corée du Nord, Iran, climat. Deux visions qui s'opposent. Retour sur la soirée dans un instant.
Un puissant séisme a frappé hier soir le centre du Mexique. Le bilan provisoire est de 224 morts. Image impressionnante d'immeubles qui se balancent. À Mexico, notre correspondante nous racontera la stupéfaction des habitants dans un instant.
Dans ce journal également, la nouvelle journée de mobilisation sociale qui se prépare. Les syndicats réformistes se joignent à l'appel. Quand, depuis New York, Emmanuel Macron explique très sereinement que, je cite, « la démocratie n'est pas dans la rue ».
Et puis, la population de l'Afrique devrait doubler d'ici 2050, un chiffre donné dans une étude publiée ce matin, Décryptage, avec son auteur à suivre.
À 8h16, dans son billet politique, Frédéric Saïs nous expliquera pourquoi le Front National n'est pas mort, n'en doutez pas. Deux séismes en moins de 2 semaines. La terre mexicaine a donc de nouveau tremblé hier soir et le bilan provisoire est déjà très lourd, au moins 224 morts. L'épicentre se situe au cœur du pays, dans l'état de Puebla, au sud-est de la capitale, Mexico, elle aussi touchée. De nombreux bâtiments se sont effondrés, immeubles ou églises. L'électricité est en partie coupée. Notre correspondante, Emmanuelle Stills, était à Mexico au moment du séisme. 19h heure française, 13h heure locale. Et avant que son téléphone ne coupe, elle a pu nous raconter ce qu'elle a vu et entendu cette nuit.
Là, je me trouve sur l'avenue d'Insurgentes, l'avenue des insurgés, qui est la grande avenue qui traverse Mexico du nord au sud. Dans les rues transversales, il y a plusieurs endroits où il y a des... où la police a bloqué l'accès parce qu'il y a des immeubles qui se sont effondrés. Il y a des secours qui s'organisent avec l'aide de... des citoyens, des passants qui décident de former des commissions qui vont d'une part essayer de trouver le nom des personnes qui se trouvaient dans ces immeubles, essayer de voir si elles sont en vie, une autre commission pour réunir de la nourriture, et ainsi de suite. Les gens s'organisent en fait pour se prêter secours les uns aux autres. Il y a énormément de monde dans les rues, des gens qui sortent des bureaux et qui se dirigent vers leur domicile pour essayer de voir si leur maison tient encore sur pied ou bien si elle s'est effondrée, comme apparemment c'est le cas de plusieurs immeubles ici à Mexico, surtout dans la zone centrale de Mexico où je me trouve.
Emmanuel Stills pour France Culture. Triste anniversaire par ailleurs, ce tremblement de terre a eu lieu 32 ans jour pour jour après le terrible séisme de 1985 qui fit près de 10 000 morts dans le pays. La terre qui se déchaîne et le vent qui se lève, l'ouragan Maria laisse derrière lui des arbres déracinés en Guadeloupe, où le dernier bilan fait état de 2 morts et 2 disparus. L'île de la Dominique semble la plus touchée, la communication y est encore difficile. Maria s'abat maintenant sur les îles Vierges avant de menacer Porto Rico.
Et c'est dans ce climat que s'est ouvert hier, Clara, le débat de l'Assemblée Générale de l'ONU.
Avec un duel à la tribune entre Donald Trump et Emmanuel Macron, 2 discours aux antipodes. Clairement, les 2 dirigeants ne parlent pas exactement la même langue, Isabelle Labéry.
D'un côté, il y a le président qui ne fait pas vraiment dans la nuance, surtout quand il parle de la Corée du Nord.
Si les États-Unis sont contraints de se défendre, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire complètement la Corée du Nord. L'homme fusée court à sa perte et à celle de son régime.
2 heures plus tard, à la même tribune, Emmanuel Macron dit tout le contraire. La solution est politique, pas militaire.
Notre responsabilité est de ramener à la table des négociations d'un règlement politique de la crise. La France refusera toute escalade et ne fermera aucune porte au dialogue.
Même divergence de vue, même différence de style au sujet de l'accord sur le nucléaire iranien.
L'accord sur le nucléaire est l'un des pires et l'un des plus inéquitables auxquels les États-Unis aient jamais participé. Franchement, cet accord, c'est une gêne pour les États-Unis.
Le dénoncer sans rien proposer d'autre serait une lourde erreur. Ne pas le respecter serait irresponsable.
Les 2 hommes s'opposent aussi sur le climat. Donald Trump n'en dit pas un mot alors qu'il veut revoir les termes de l'accord de Paris. Emmanuel Macron, lui, martèle que le texte n'est pas négociable. Une guerre des mots qui résume le choc de 2 visions du monde, souverainisme contre multilatéralisme.
Comme président, je dirai toujours l'Amérique d'abord.
Aujourd'hui, il n'y a rien de plus efficace que le multilatéralisme, parce que tous nos défis sont mondiaux. Le terrorisme, les migrations, le réchauffement climatique, tout cela, nous ne le réglerons qu'à l'échelle de la planète, de manière multilatérale. À chaque fois que les grandes puissances, assises à la table du Conseil de sécurité, ont cédé à la loi du plus fort, ont cédé à l'unilatéralisme, ont pu dénoncer des accords qu'elles avaient elles-mêmes signés, elles n'ont pas respecté le ciment du multilatéralisme. C'est cela qui construit la paix dans la durée.
Emmanuel Macron reste toutefois persuadé que sa bonne relation personnelle avec Donald Trump finira par payer et qu'il sera celui qui fera fléchir le président américain.
Isabelle Labéry à New York. Et juste après ses joutes verbales, Emmanuel Macron donnait une interview à la journaliste star de CNN International, Christine Amanpour. Interrogée en anglais sur sa volonté de réformer la France et les difficultés rencontrées, et voici ce qu'il répond.
I do believe in democracy.
Je crois en la démocratie, mais la démocratie n'est pas dans la rue. J'ai été élu sur ces promesses de réforme, les Français ont voté, donc je suis très tranquille avec ça. Vous avez un capital politique, vous devez l'utiliser. Je m'en moque d'avoir une très forte popularité. Mon pays doit être réformé. J'ai un taux de chômage de 10%, j'ai près de 25% de mes jeunes sans emploi. C'est inutile d'avoir du capital politique et de rester dans une telle situation. Je suis incapable de vous dire s'il y aura des grosses manifestations ou pas. Mais ce que je sais, c'est que je respecte ceux qui manifestent. Mais je respecte aussi les électeurs français, et ils ont voté pour le changement. Et je pense que ce qui est important, c'est de faire ce que vous avez annoncé, de le faire calmement, de l'expliquer, et d'expliquer que c'est impossible d'avoir un système juste si vous ne faites pas ces réformes. Mais ce n'est pas juste un agenda de réforme, c'est un agenda de transformation.
Emmanuel Macron traduit pour l'occasion par Ludovic Piétenu. Le président français utilise donc les mêmes éléments de langage, mêmes arguments en France comme à l'étranger pour défendre son programme. Mais à la veille de la deuxième journée de mobilisation contre sa réforme du droit du travail, il convainc peu de monde. Les syndicats s'unissent peu à peu. Nous l'évoquions hier, les réformistes seront demain dans la rue. CFDT, CFTC et UNSA publient dans Les Échos une tribune intitulée « Le compte n'y est pas ». Une façon de ne pas laisser le terrain de la contestation à la CGT. Isabelle Raymond.
Dans cette tribune, les trois syndicats détaillent leurs motifs de mécontentement. Ils dénoncent l'assouplissement des conditions de licenciement, tout comme la réduction très probable des moyens alloués aux instances représentatives du personnel fusionnées. Ils demandent au gouvernement de rectifier le tir, une façon aussi d'occuper le terrain à la veille de la journée d'action à l'appel de la CGT. La centrale, qui en décidant de partir seule, ne nous a pas laissé le choix, résume l'UNSA. Il fallait se rallier ou se taire. Ces syndicats, à commencer par la CFDT, se sentent aussi sans doute trahi par le gouvernement sur plusieurs sujets, la possibilité de se passer d'eux dans les petites entreprises ou encore l'augmentation des indemnités de licenciement finalement réduites au-delà de 10 ans d'ancienneté. Des organisations poussées par leur base, avec ici et là des fédérations de plus en plus contestataires. La CFDT Route organisait lundi des barrages filtrants quand l'UNSA Ferroviaire appelle à la grève demain.
Et justement, quelques précisions sur le trafic à venir dans les transports. Les perturbations devraient être limitées à la SNCF demain. Trafic normal pour les TGV, le Transilien, dit la direction. 8 trains sur 10 en moyenne pour les TER et les Intercités. Autre mobilisation annoncée, celle des routiers, lundi prochain. Une délégation de la CGT et de Force ouvrière sera reçue aujourd'hui au ministère des Transports. Le gouvernement pourrait lâcher du lest. Les deux syndicats appellent, je vous le rappelle, à une grève reconductible la semaine prochaine. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Le choc de l'offre annoncé par le gouvernement pour résoudre la crise du logement. Son projet de loi sera dévoilé ce midi par Jacques Mézard, ministre du Logement. Projet ambitieux, construire plus dans les zones tendues pour faire baisser les loyers tout en faisant des économies. Ce plan logement a déjà fait couler beaucoup d'encre et mécontenté beaucoup de monde, les étudiants notamment, car les aides au logement sont, le gouvernement ne s'en cache pas, la première cible. Il souhaite y dégager 1 milliard d'euros d'économies.
Et votre journal se poursuit, Clara Lecoq-Réal. Il est 8h10, vous écoutez les matins de France Culture. Au chapitre des économies, toujours les crédits d'impôt pour la transition énergétique seront réduits.
Pour les changements de portes et de fenêtres, en tout cas, la baisse sera progressive à partir de l'année prochaine. L'exécutif veut faire le ménage pour recentrer les aides plus efficacement. Hélène Philly.
Et ce qui est le plus efficace, c'est l'isolation des murs et des combles. On compte jusqu'à 30% de déperdition thermique par le toit. C'est 2 à 3 fois moins pour les fenêtres. Et c'est ce qui fait dire au gouvernement que le rapport coût-bénéfice de ce crédit d'impôt n'est pas bon. Mais pour l'UFC Que Choisir, il faudrait aller plus loin. Il faudrait lier le crédit d'impôt aux économies d'énergie gagnées globalement. Plus vous faites de travaux, plus on vous aide. C'est ce qu'explique Nicolas Mouchnino. Il est chargé de mission énergie et environnement pour l'association.
Au lieu de faire un crédit d'impôt ou une prime par équipement, c'est-à-dire la chaudière, l'isolation ou les fenêtres, elle propose plutôt de le conditionner au regard de la performance réellement atteinte après travaux. C'est-à-dire que plus vous allez loin, plus vous pouvez bénéficier de crédit d'impôt. Moins vous allez loin en termes de performance, moins vous bénéficiez d'aide ou de financement.
Le gouvernement entend agir par étapes pour que les professionnels, fabricants, vendeurs aient le temps de se retourner. En 2018, le crédit d'impôt à la transition énergétique sera concentré sur l'isolation des combles ou le remplacement d'une chaudière. Il sera réduit progressivement pour les fenêtres, les portes et les volets.
La fin d'une époque, le Parti Socialiste met en vente son siège historique à Paris, rue de Solferino, hôtel particulier de 3000 mètres carré, acheté en 1980, investi lors de la victoire de Mitterrand en 81. 36 ans plus tard, le parti ne cache pas sa déliquescence après ses défaites électorales, après surtout les 6,36% de Benoît Hamon à la présidentielle. Sa dotation publique va nettement baisser l'année prochaine. Il faut donc combler ce déficit à venir. La valeur de l'hôtel particulier oscille entre 40 et 70 millions d'euros. Le cardinal Barbarin devant la justice, il sera jugé pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs commise par un prêtre de son diocèse à Lyon. C'était il y a 25 ans. L'archevêque de Lyon comparaîtra avec 6 autres personnes en avril prochain. Ce n'est pas une surprise. Plus le temps avance, plus nous sommes nombreux. Ce matin, des chiffres sont un peu plus précis. Ils sont publiés par l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. L'humanité, un noble mot, devrait augmenter d'un tiers d'ici 2050. Nous passerions donc de 7,5 milliards d'habitants sur la planète à 10 milliards, puis 11 milliards à la fin du siècle. Le professeur Gilles Pison est l'auteur de cette étude et il est très clair. L'un des grands changements à venir est l'accroissement de la population en Afrique.
Aujourd'hui, un habitant de la planète sur 6 vit en Afrique. En 2050, ça sera très probablement 1 sur 4. Et à la fin du siècle, probablement, là aussi, plus d'1 sur 3. L'Afrique, c'est un des grands changements à venir. Hein. C'est le formidable accroissement de la population de l'Afrique. Probablement 2,5 milliards en 2050. Et plus de 4 milliards en 2100. La croissance démographique, si elle se poursuit, elle décélère. Hein. Le taux d'accroissement démographique mondial a été divisé par 2 depuis 50 ans. Et s'il diminue, c'est parce que partout sur la planète, les femmes, les couples ont de moins en moins d'enfants. Et à l'échelle mondiale, les femmes mettent au monde 2,5 enfants en moyenne chacune. C'était le double en 1950, avec des variations selon les régions du monde. Et donc, parmi les régions du monde dans lesquelles la fécondité est encore élevée, supérieure à 3 enfants en moyenne par femme, on trouve aujourd'hui presque toute l'Afrique et les régions allant de l'Afghanistan jusqu'au nord de l'Inde, en passant par le Pakistan.
L'Inde qui va probablement dépasser la Chine comme état le plus peuplé du monde?
Oui, probablement dans moins de 10 ans. La Chine compte 1,4 milliard d'habitants, l'Inde 1,3 milliard et quelques, et il naît nettement plus de bébés en Inde qu'en Chine aujourd'hui, et c'est vrai depuis presque 40 ans.
Le professeur Gilles Pison interrogé pour France Culture par Nadine Epstein. Enfin, La Belle Étoile cannoise file aux Oscars. Le film de Robin Campillon, 120 battements par minute, a été choisi pour représenter la France outre-Atlantique. Grand prix du dernier festival de Cannes, grande fresque surtout sur les années SIDA. Il est donc candidat pour l'Oscar du meilleur film étranger. Reste encore à savoir s'il sera retenu pour aller jusqu'à la cérémonie. Réponse en janvier prochain. D'ici là, le ciel de votre mercredi à venir, ce sera le même ce matin et cet après-midi, très simple. Un soleil plutôt voilé au nord de la Loire et un grand soleil au sud, des températures toujours fraîches. Au réveil, il fait 10 degrés ce matin à Nancy, 13 à Rennes, 15 à La Rochelle et 19 degrés à Perpignan. Cet après-midi, comptez 17 degrés à Lille, Brest et Paris, 20 degrés à Tulle et jusqu'à 23 à Montpellier.